Votre fils Simon a eu un grave accident de la route ce matin. Il était passager à l'avant d'une camionnette, sans ceinture, et il a subi un grave traumatisme crânien. Quand les médecins du SAMU l'ont pris en charge, Simon était déjà dans le
coma. Je comprends pas pourquoi on n'opère pas mon fils tout de suite, là.
Quand Simon est arrivé ici, qu'on a constaté l'hémorragie, on a demandé conseil à deux neurochirurgiens. Tous les deux nous ont confirmé qu'il était trop tard.
Ça peut pas faire de mal.
Simon n'est plus dans le coma. Il est en état de mort cérébrale.
Mais je comprends rien, là.
Quand vous le voyez, tout vous semble normal. Il est chaud, il respire, mais c'est uniquement grâce aux machines que vous avez vues dans sa chambre.
Mais j'ai entendu son cœur.
Oui, c'est vrai, vous l'avez entendu, son cœur continue de battre. Mais si on arrête ces machines, son cœur s'arrêtera aussi.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Les parents de Simon sortent de la chambre. Thomas, l'infirmier, est là sur le seuil qui les attend. Ils ouvrent la bouche mais demeurent muets, semblent vouloir parler. Thomas les y engage. « Je vous écoute, je suis là pour cela. » Et Sean articule avec peine. Le cœur de Simon, au moment de dire à Simon « Quand vous arrêterez le cœur, il faut lui dire « Nous sommes là, avec lui, que nous pensons à lui, notre amour. » Puis Sean encore, le bruit de la mer, pour lui faire entendre. Il tend à Thomas des écouteurs et un baladeur numérique. Piste 7, c'est prêt. C'est pour qu'il entende la mer. Étrange looping dans leur cerveau. Et Thomas accepte d'accomplir ses rites en leur nom. Ce sera fait. Ils vont s'éloigner, mais Marianne se retourne une dernière fois vers le lit et ce qu'il affiche sur place est la solitude qui émane de Simon. Désormais aussi seul qu'un objet, comme s'il était délesté de sa part humaine, comme s'il n'était plus relié à une communauté insérée dans un réseau d'intentions et d'émotions, mais errait, métamorphosé en une chose absolue. Simon est mort. Elle se prononce ces mots pour la première fois. Épouvantée soudain, cherche Sean qu'elle ne voit pas, se précipite dans le couloir, le découvre prostré, accroupi contre le mur, lui aussi irradié par la solitude de Simon, lui aussi certain de sa mort à présent. Elle s'accroupit devant lui, cherche à soulever sa tête en plaçant ses mains en coupe sous sa mâchoire. « Viens, partons d'ici. » Ce qu'elle voudrait lui dire, c'est « C'est fini. Viens. Simon n'existe plus. » Réparer les vivants, le roman de Malice de Kerangal, paru en 2013 aux éditions Verticales, raconte la migration d'un cœur. Un accident plonge un jeune homme de 20 ans dans le coma et ce drame redonne un espoir de vie à une patiente en attente de greffe. L'auteur relate l'invention d'un geste solidaire en dépit de la souffrance. Un don magistral émanant d'une famille face à un cauchemar d'une magnitude inconnue. La vie et la mort, c'est aussi le quotidien des soignants à qui l'auteur rend un vibrant hommage. Elle donne à entendre l'étendue des responsabilités qu'ils portent, de la haute technicité des gestes à l'humanité requise pour accompagner les patients et leurs proches. Malice de Kerangal a été formée à la philosophie et à l'ethnologie. Elle en a gardé le goût des questions métaphysiques et celui d'explorer des univers très différents. Aussi aborde-t-elle ses textes avec une exigence extrême qui l'amène à se documenter toujours très précisément. Avec Naissance d'un pont, pour lequel elle obtint le prix Médicis en 2010, elle s'intéresse à l'architecture et se plonge dans la lecture de nombreux traités techniques. Pour réparer les vivants, son souci du réalisme l'a conduit à assister à une transplantation cardiaque. Il en découle un univers visuellement très riche qui inspire à deux reprises les cinéastes. Mais Malice de Kerangal est avant tout une amoureuse de la langue. Elle mêle à l'envi les lexiques techniques et les images poétiques et travaille à l'oreille, très attentive au rythme et à la musicalité des phrases. En faisant du cœur de Simon son personnage principal, la romancière pousse à son comble sa passion pour le corps, messager de l'âme. De quoi un cœur est-il plein ? S'interroge l'auteur. Entre le muscle et l'affect, une part de mystère résiste. C'est ce mystère que son œuvre approche avec une grâce infinie. Ouvrons ce roman avec une scène pleine de vitalité. Nous sommes en Normandie, Simon, Chris et John, trois jeunes amis liés par la passion du surf, se retrouvent dès l'aube, malgré le froid de l'hiver. mer formée, houle régulière, vent faible. Toutes les conditions sont réunies pour une session exceptionnelle. Nous suivons donc Simon dans son corps à corps avec la mer, une expérience très sensuelle, proche de la transe. Lorsque la romancière Fille de Marin décrit cette scène, la poésie affleure et la magie opère. Nous sommes à notre tour sur la vague. À 200 mètres du rivage, la mer n'est plus qu'une tension ondulatoire. Elle se creuse et se bombe, soulevée comme un drap lancé sur un sommier. Simon Limbre se fond dans son mouvement. Il rame vers le line-up, cette zone au large où le surfeur attend le départ de la vague, s'assurant de la présence de Chris et John, postés sur la gauche, petit bouchon noir à peine visible encore. L'eau est sombre, marbrée, veineuse, la couleur de l'étain. Il se retourne vers la côte, comme il aime toujours le faire avant de s'éloigner davantage. La terre est là, étirée, croûte noire dans les lueurs bleutées. Et c'est un autre monde, un monde dont il s'est dissocié. Subitement, il fait volte-face, se détourne du continent, s'en arrache, un sursaut, encore quelques dizaines de mètres, puis il cesse de ramer. Bras qui se reposent, mes jambes qui dirigent, mains accrochées au surf et torse légèrement relevé, menton haut, Simon Limbre flotte. Il attend. L'aube abrasive brûle son visage et sa peau se tend. Ses cils se durcissent comme des fils de vinyle. Les cristallins derrière ses pupilles se givrent comme oubliés dans le fond d'un freezer et son cœur commence à ralentir, réagissant au froid, quand soudain il la voit venir. Il la voit qui s'avance à vitesse constante, ferme et homogène. La vague, la promesse. Et d'instinct se place pour en trouver l'entrée et s'y infiltrer, s'y glisser comme un bandit se glisse dans un coffre pour en braquer le trésor. Même cagoule, même précision millimétrée du geste. Pour s'insérer dans son envers, dans cette torsion de la matière où le dedans s'éprouve plus vaste et plus profond encore que le dehors. Elle est là. À 30 mètres, elle approche, et brusquement, concentrant son énergie dans ses avant-bras, Simon s'élance et rame de toutes ses forces, afin de prendre la vague de vitesse, afin d'être pris dans sa pente, justement. Et maintenant, c'est le take-off, phase ultra-rapide où le monde entier se concentre et se précipite, où il faut inhaler fort, couper toute respiration et rassembler son corps en une seule action, lui donner l'impulsion verticale qui le dressera sur la planche, pieds bien écartés, bras ouverts, stabilisant l'ensemble. Et cette seconde-là est décidément celle que Simon préfère. Celle qui lui permet de ressaisir en un tout l'éclatement de son existence et de se concilier les éléments, de s'incorporer au vivant et, une fois debout sur le surf, étirer l'espace. Allonger le temps, jusqu'au bout de la course, épuiser l'énergie de chaque atome de mer. Devenir déferlement, devenir vague. Il prend ce premier ride en poussant un cri et pour un laps de temps touche un état de grâce. L'espace l'envahit, l'écrase tout autant qu'il le libère, sature ses fibres musculaires, ses bronches, oxygène son sang. La vague se déplie dans une temporalité trouble, lente ou rapide, on ne sait pas. Elle suspend chaque seconde, une à une, jusqu'à finir pulvérisée, amas organique, sans plus de sens. Et c'est incroyable. Mais après avoir été tabassé par les cailloux dans le bouillon de la faim, Simon Limbre a fait demi-tour pour repartir direct, sans même s'attarder sur les figures fugaces qui se forment dans l'écume quand la mer achoppe sur la terre, surface contre surface. Il est retourné au large, ramant plus fort encore, fonçant vers ce seuil où tout commence, où tout s'ébranle. Il a rejoint ses deux copains qui pousseront bientôt ce même cri dans la descente et le set de vagues qui blinde sur eux depuis l'horizon, rançonnant leur corps, ne leur laisse aucun répit.
Le livre s'ouvre par cette scène, ce tableau du surf.
Maïlis de Kerangal.
Cette onde de choc de la vague, c'est aussi l'onde de choc des annonces, c'est l'onde des voix, c'est notre univers qui est saturé de lignes sonores. La vague en est une. Et j'espère aussi que ça reconduit l'onde de choc de la phrase, de l'écriture qui elle aussi se déploie comme une ligne. Donc cette vague, elle s'enroule dès le début du livre et après elle a une fonction de dépliement, de déferlante. Et l'idée c'est effectivement de déferler jusqu'à la dernière page, jusqu'à la dernière ligne, au dernier mot du livre.
Mais un tragique accident succède à cette envolée au sommet des vagues. Sur le chemin du retour, nos trois jeunes sportifs, assaillis par la fatigue, s'endorment et leur véhicule fait une fatale sortie de route. Nous voici au CHU du Havre, une heure après l'arrivée des secours. nous découvrons Pierre Revol, médecin anesthésiste réanimateur, à qui l'on annonce l'arrivée d'un patient dans le coma.
On a trouvé une carte de cantine dans sa poche.
Mathias, mucosa dissidence fémorale, une artère qui l'emmène rapidement en scan.
Dans cet univers entre la vie et la mort, le docteur Revol se meut avec aisance et précision, comme dans un ballet bien réglé. Découvrons comment l'auteur plante le décor hospitalier pour mieux y inscrire son personnage. C'est un type de haute taille, efflanqué, thorax creux et ventre rond, longs bras, longues jambes, des répétos blanches à lacets, quelque chose de délié et d'incertain, raccordé à une allure juvénile. Et sa blouse est toujours ouverte, de sorte que lorsqu'il se déplace, les pans se gonflent, s'écartent, des ailes, découvrant un jean et une chemise, blanche elle aussi, et froissée. Au sein de l'hôpital, la réa est un territoire à part qui accueille les vies tangentielles, les comas opaques, les morts annoncées, héberge ces corps exactement situés entre la vie et la mort. Un domaine de couloirs, de chambres, de salles que régit le suspense. Revol évolue là, au revers du monde diurne, celui de la vie continue et stable, celui des jours qui s'enquillent dans la lumière vers des projets futurs, œuvre au creux de ce territoire comme on trafique à l'intérieur d'un grand manteau, dans ses plis sombres, dans ses cavités. Pour cela, il aime les gardes, les dimanches et les nuits. Il aime leur intensité, leur temporalité spécifique, la fatigue comme un excitant subreptice qui monte graduellement dans son corps, l'accélère et le précise. Toute cette érotique trouble. Aime leur silence, vibra-t-il, leur lumière de clair-obscur, appareil qui clignote dans la pénombre, écran d'ordinateur bleuâtre ou lampe de bureau, et encore cette physique de la garde, ce climat d'enclave, cette étanchéité, le service comme un vaisseau spatial lancé dans les trous noirs, un sous-marin en plongée au plus profond des abysses. Mais cela fait longtemps déjà que Revol y puise autre chose. La conscience nue de son existence. Non pas le sentiment de puissance, l'exaltation mégalomane, mais pile son contraire. L'influx de lucidité qui régule ses gestes et tamise ses décisions. Un shoot de sang-froid. On a quelqu'un pour vous. Un appel à 10h12. Neutre, informatif, les mots s'abattent. Homme, 1m83, 70 kg, environ 20 ans, accident de la route, trauma crânien en commun. Nous savons qui est celui que l'on résume de la sorte. Nous connaissons son nom, Simon Limbre. L'appel est à peine fini que l'équipe du SAMU débarque en réa. Les portes coupe-feu s'ouvrent, le brancard roule, remonte l'axe central du service. On s'écarte sur son passage. Revol surgit et se dit soudain, voyant arriver le chariot au bout du couloir, que ce dimanche, la garde sera dure.
Écoute, on voit un hématome énorme, profond, frontal gauche, qui est en train de comprimer le système ventriculaire, qui déplace la ligne moyenne de l'autre côté. Et on voit aussi un drainage intraventriculaire. How new day new, how could you go? Twisted sick, but I'm on the floor. Come rescue me. Tears in blood, but oh how they flow. Reasons bleeding, tell me no more. Get into me. I should have gave the leash to your soul, but now I've lost control. And then you wander aimlessly. For you that freedom's your goal, but I'm telling you, freedom is the end of me. Ain't it enough that you swallow them whole?
peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Au sein de la famille, le drame prend une autre résonance. Séparée depuis un an de Sean, un Maori d'origine néo-zélandaise avec qui elle a eu deux enfants, Marianne vit seule avec Lou, 7 ans, et Simon, 20 ans. C'est un appel de la gendarmerie qui l'extrait du sommeil pour l'informer de la situation. Nous percevons le choc de la nouvelle à son effet physique sur Marianne, tandis que l'annonce de l'accident demeure hors champ. Cet effondrement n'est pas verbalisé, mais il est traduit par le corps. Il est une secousse digne d'un tremblement de terre, un coup porté dont l'auteur nous donne la mesure avec une incomparable force. Ce n'est pas elle qui a décroché, mais Lou, 7 ans, entrée dans sa chambre en courant parce qu'elle ne voulait pas manquer une image du dessin animé qu'elle regardait au salon, et a simplement déposé le téléphone contre l'oreille de sa mère avant de ressortir aussi vite, si bien que la voix dans le combiné se tissait au songe de Marianne, se haussait, insistante, et finalement ce n'est qu'en entendant ces mots « S'il vous plaît, répondez-moi, êtes-vous la mère de Simon Limbre ?» que Marianne s'est redressée dans son lit, le cerveau dessillé d'un coup par la peur. Elle a dû crier fort, assez fort en tout cas pour que la petite réapparaisse, lente et grave, les yeux ronds, et vienne se figer à l'entrée de la chambre, la tête appuyée contre le chambranle de la porte, regard fixé sur sa mère qui ne la voit pas mais halète comme un chien, geste précipité et visage tordu, pianote sur son portable pour appeler Sean qui ne décroche pas. Décroche, décroche, bordel! Sa mère qui enfile ses vêtements à la hâte, bottes chaudes, vaste manteau, écharpe, puis fonce dans la salle de bain pour s'asperger le visage d'eau froide, mais aucune crème, rien, qu'en relevant la tête du lavabo, elle croise son regard dans le miroir, iris glacée sous les paupières gonflées, comme pochée par un coup, saisie alors de ne pas se reconnaître, comme si sa défiguration avait commencé, comme si elle était déjà une autre femme. Un pan de sa vie, un pan massif, encore chaud, compact, se détache du présent pour chavirer dans un temps révolu, pour y chuter et disparaître. Elle discerne des éboulements, des glissements de terrain, des failles qui sectionnent le sol sous ses pieds. Quelque chose se referme, quelque chose se place désormais hors d'atteinte. Un morceau de falaise se sépare du plateau et s'effondre dans la mer. Une presqu'île lentement s'arrache du continent et dérive vers le large, solitaire. La porte d'une caverne merveilleuse est soudain obstruée par un rocher. Le passé a soudain grossi d'un coup, ogre baffreur de vie, et le présent n'est qu'un seuil ultra mince, une ligne au-delà de laquelle il n'y a plus rien de connu. La sonnerie du téléphone a fendu la continuité du temps, et devant le miroir où se fige son image, les mains cramponnées au lavabo, Marianne se pétrifie sous le choc. Saisissant son sac, elle s'était retournée et était tombée sur la petite qui n'avait pas bougé. Oh, Lou! L'enfant s'était laissé étreindre sans comprendre, mais tout en elle interrogeait sa mère, qui esquiva. « Mets tes chaussons, prends un pull, viens !» Et claquant la porte dans l'escalier, Marianne pensa soudain, et cette idée la glace, que la prochaine fois qu'elle réintroduirait sa clé dans la serrure, elle saurait exactement pour Simon. Un étage plus bas, Marianne sonna à la porte d'un appartement, recommença. Dimanche matin, ça dort, puis une femme vint ouvrir, à qui Marianne murmura « Hôpital, accident, Simon, c'est grave. » Et l'autre, écarquillant les yeux, hocha la tête, souffla avec douceur « On s'occupe de Lou. » Et la fillette en pyjama entra dans l'appartement, fit un petit signe de la main à sa mère par la porte entrouverte, mais soudain se ravisa, se précipita dans la cage d'escalier, appelant « Maman !» Alors Marianne remonte les marches en vitesse, s'agenouilla à hauteur de sa fille, la serra contre elle, puis l'ayant regardée au fond des yeux, lui répéta la litanie froide. « Simon, surf, accident, je reviens vite. » L'enfant ne scia pas, déposa un baiser sur le front de sa mère, entra chez les voisins.
Bonjour.
Je veux voir mon fils.
Bonjour.
Il a été hospitalisé ce matin.
Je vais regarder, vous pouvez me dire son nom ?
Simon Limbre, L-I-M-B-R-E-S.
Et voici Marianne face au docteur Révol qui vient d'admettre Simon dans son service. Arrivée en réanimation, Marianne redoute terriblement ce qu'elle va entendre. Elle n'a pas réussi à joindre Sean, le père de son fils, et doit affronter seule les explications du médecin qui la reçoit dans son bureau. De son côté, Pierre Revol doit faire face à cette résistance. et trouver les mots justes pour annoncer l'inaudible, savoir soutenir le fracas de la douleur, sans jouer un lien factice avec la parente de son patient. Leur rencontre est pour chacun d'eux une épreuve, car nommer la mort, c'est la faire advenir. Vous prenez un café ? Marianne sursaute, acquiesce. Révol se relève et, lui tournant le dos, saisit la cafetière qu'elle n'avait pas vue, verse le café dans des gobelets de plastique blanc, ça fume, ses gestes sont amples et silencieux. Sucre ? Il temporise, aménage sa parole, elle le sait, accompagne ce tempo, en éprouve la tension paradoxale puisque le temps s'égoutte comme le café dans la cafetière, quand pourtant tout ramène à l'urgence de la situation, à son caractère radical, tangent. Et maintenant, Marianne a fermé les yeux. Elle boit, concentrée sur la brûlure liquide dans sa gorge, tente à l'appréhende le premier mot de la première phrase, cette phrase saturée de malheur qu'elle sait sur le point de se former. Tout en elle recule et se défausse. Sa colonne vertébrale vient se tasser contre le dossier de la chaise bancale. Sa tête part en arrière. Elle voudrait se tirer d'ici, courir à la porte et s'échapper direct, ou disparaître par une trappe qui soudain s'ouvrirait sous les pieds de sa chaise. Pof ! Révol sait qu'elle a compris, sait qu'elle sait. Et c'est avec une douceur infinie qu'il consent à étirer le temps qui précédera sa parole. Puis enfin, votre fils est dans un état grave. Au premier mot prononcé, timbre clair, cadence calme, Marianne appuie ses yeux secs dans ceux de Révol qui la regardent idem, tandis que sa phrase se met en branle, tandis qu'elle se compose à présent, limpide sans être brutale, assez lente pour que Marianne puisse se répéter intérieurement chacune des syllabes entendues, les inscrire en elle. Lors de l'accident, votre fils a subi un traumatisme crânien. Le scanner fait état d'une lésion importante au niveau du lobe frontal. Il porte une main sur son crâne à l'arrière de son front, figurant sa parole. Et cette commotion violente a provoqué une hémorragie cérébrale. Simon était dans le coma à son arrivée à l'hôpital. Le café refroidit dans le gobelet. Révol boit lentement quand, face à lui, Marianne est désormais une statue de pierre. Le téléphone retentit dans la pièce. Une, deux, trois sonneries, mais Révol ne décroche pas. Marianne fixe son visage, littéralement l'absorbe, carnation d'une blancheur soyeuse, cerne mauve sous des grandes soucoupes d'un gris transparent, paupières lourdes, fripées comme des coquilles de noix, une figure longue et mouvementée, et le silence enfle jusqu'à ce que Révol reprenne. « Je suis inquiet. » Sa voix le surprend. Inexplicablement forte, comme si sa tonalité s'était déréglée. Nous procédons en ce moment à des examens dont les premiers résultats ne sont pas bons. Sa voix a beau bruiter un son inconnu à l'oreille de Marianne et illico accélérer sa respiration, elle n'est pas enveloppante, ne sonne pas comme ces voix dégueulasses qui prétendent au réconfort quand elles poussent dans le charnier. Elle désigne au contraire une place pour Marianne, une place et une ligne. Il s'agit d'un coma profond. Les secondes qui suivent ouvrent un espace entre eux, un espace nu et silencieux, au bord duquel ils se tiennent un long moment. Marianne Limbre commence à faire tournoyer lentement le mot « coma » dans sa tête, tandis que Révol ressaisit la part noire de son travail, et rien ne lui a jamais semblé plus violent, plus complexe, que de venir se placer à côté de cette femme, afin qu'ils creusent ensemble dans cette zone fragile du langage où se déclare la mort, pour qu'ils y avancent, synchrone. Et maintenant, ils se tiennent les yeux dans les yeux, se font face. C'est cela, rien d'autre que cela. Un absolu face à face. Et celui-là s'accomplit sans faillir, comme si parler et se regarder étaient le recto et le verso d'un même geste, comme s'il s'agissait de se faire face autant que de faire face à ce qui se profile dans une chambre de cet hôpital. Il relève la tête vers Marianne. « Vous pourrez voir votre fils dès que nous aurons fini les examens. » « Quels examens ?» La voix de Marianne tout droite dans le bureau, et l'idée vague que s'il y a des examens en cours, alors rien n'est figé. L'éclat dans son regard alerte Révol qui s'efforce de tenir la situation et de juguler l'espoir. L'état de Simon est évolutif, et cette évolution ne va pas dans le bon sens. Marianne accuse le coup, rétorque « Ah !» Et il évolue vers quoi, l'état de Simon ? Parlant ainsi, elle sait qu'elle se découvre, qu'elle prend un risque. Et Révol prend son inspiration pour répondre « Les lésions de Simon sont irréversibles. » Il a le sentiment pénible de flanquer un coup, l'impression de faire péter une bombe.
Maïlys de Kerangal.
Dans ce texte, ce qui était important pour moi, c'était à un moment donné comment se dépose la parole dans ces situations. Ce qui va sortir de la bouche de Pierre Révol ou de Thomas Rémige ou de Marianne et de Sean, les parents, il y a une attention du texte à comment cette parole va se déposer. C'est-à-dire l'idée que l'annonce est tout de suite matérielle. Les annonces ont une physique. Ce sont des phrases qui sont contondantes. Il faut que ces annonces, elles cristallisent et qu'elles durcissent. Elles ont une matérialité très forte. Et en même temps, l'enjeu de la parole, pour moi, c'est l'enjeu de l'empathie et peut-être d'une forme de délicatesse, c'est-à-dire comment on s'adresse à quelqu'un, comment est-ce qu'on lui parle, comment la parole circule dans un hôpital et dans ces moments où il faut faire des annonces tragiques.
Un peu plus tard, Sean, le père de Simon, rejoint enfin Marianne à l'hôpital. C'est ensemble qu'ils s'apprêtent à voir leur fils. Lorsqu'ils pénètrent dans la chambre de Simon, il s'agit pour eux d'affronter cette troublante réalité. Si le cerveau de leur fils ne répond plus, son cœur bat. Il respire et semble encore vivant. Chacun est assailli à sa manière par l'émotion. Marianne est saisie par la vision du corps de son enfant. Sean, qui vient de prendre connaissance de l'accident, improvise de son côté un rituel intime imprégné de sa culture maori en guise d'adieu à son fils. Marianne s'approche de Simon, au plus près de ce corps qui ne lui a jamais semblé aussi long et qu'elle n'a pas vu d'aussi près depuis tellement longtemps. Pudeur de Simon enfermé dans la salle de bain, exigeant hors de lui qu'on frappe désormais à la porte de sa chambre ou traversant l'appartement drapé dans des serviettes de toilette comme un jeune bonze. Marianne se penche au-dessus de la bouche de son enfant pour percevoir son souffle, pose une joue à hauteur de sa poitrine pour entendre son cœur. Il respire, elle le sent, son cœur bat, elle l'entend. Elle se redresse, le crâne de Simon est couronné d'une bande, la face est intacte, oui, mais son visage est-il toujours là? La question l'assaille tandis qu'elle examine le front de son enfant, la côte de l'arcade, le tracé des sourcils, la forme des yeux sous les paupières, le petit espace de peau dans le coin intérieur de l'œil, lisse et concave, tandis qu'elle reconnaît le nez fort, les lèvres ourlées, charnues, le creuset des joues, le menton bardé d'une barbe fine. Oui, tout cela est présent, mais le visage de Simon, tout ce qui vit et pense en lui, tout ce qui l'anime, tout cela va-t-il revenir? Elle chancelle, jambes molles, sa grippe au lit à roulette, la perfusion bouge, l'espace tangue autour d'elle. La silhouette de Sean se brouille comme derrière une vitre cinglée de pluie. Il s'est avancé de l'autre côté du lit, s'est placé à même hauteur que Marianne, et maintenant il prend la main de son fils tandis que du creux glacé de son ventre, au bord de ses lèvres à peine entrouvertes, se forme péniblement son prénom. Simon, on est là, on est avec toi, tu m'entends? Simon, my boy, on est là. Il applique son front sur celui du jeune homme étendu, sa peau est chaude encore, et c'est bien son odeur. Odeur de laine et de coton, odeur de mer, et sans doute commence-t-il à chuchoter des mots pour eux seuls, des mots que Revol ne peut entendre et que nous ne saurons jamais, babil archaïque des îles de Polynésie, ou mots manas qui auront traversé toutes les épaisseurs du langage sans s'altérer, cailloux rougeoyants d'un feu intact, cette matière dense et lente, inépuisable, cette sagesse. Ça dure 2-3 minutes, puis il se redresse, ses yeux croisent ceux de Marianne, et leurs mains s'effleurent au-dessus du buste de leur enfant, un geste qui fit glisser le drap sur le torse du jeune homme, découvrant ce tatouage maori qu'ils n'ont jamais touché, graphisme végétal issu de l'épaule, puis propagé au creux de la clavicule, puis sur les omoplates. Simon avait marqué sa peau l'été de ses 15 ans, lors d'une colo de surf au Pays Basque, manière d'affirmer « je dispose de mon corps ». Et si Sean, calme, lui-même tatoué sur toute la surface du dos, l'avait interrogé sur le sens, le choix et l'emplacement d'un tel dessin, cherchant à comprendre s'il faisait signe à ce qui subsistait de métis dans sa paupière, Marianne, elle, avait mal encaissé le coup. Simon était si jeune. Elle lui avait dit, nerveuse, « ton tatouage, là, sais-tu que c'est pour la vie ?» Et lui revient ce mot en boomerang, « irréversible ».
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
לא נשאר לי אלא פשוט לוותר אהבתי הכל, אהבתי אותה אך אני לא איתה, אני לא איתה עברתי ממנה לא ראיתי דבר רק רציתי אותה מבטה בעיניי אז גרם לי לשכוח את מה שאני את דרכי לא 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 חדשה, הנה אני בא.
Échappons-nous un instant de l'hôpital pour accompagner les premiers émois du cœur battant de Simon. Remontons dans le temps. C'est l'automne, il pleut, c'est l'heure de la sortie du lycée. Simon engage la conversation avec Juliette, une camarade qu'il raccompagne jusqu'à son train. Derrière la conversation anodine, leur trouble réciproque est palpable. Transporté par son élan amoureux, bravant la pluie, il accomplit alors un exploit, tel un chevalier des temps modernes qui aurait troqué son cheval contre un vélo, découvrant ce très beau passage qui offre une consolation au lecteur. Simon n'est plus, mais il a eu le temps d'aimer. Juliette et Simon remontent l'avenue comme des princes, énervés mais allant le plus lentement possible. Pianissimo, 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 allargando. Engloutis dans l'étonnement qu'ils sont l'un pour l'autre, leur délicatesse est inouïe. Et ce qui circule entre eux pulse un tempo tournoyant, si bien qu'au pied du funiculaire, ils ont le souffle court, le sang qui tape dans les veines temporales et les mains moites, car tout est sur le point de se désagréger maintenant. Et à l'instant où la sonnerie signale le départ du train, elle l'embrasse sur la bouche. Un baiser ultra rapide, un battement de paupières et hop, elle bondit dans la rame, où elle se retourne et se colle à la vitre, le front ventousé sur le verre crasseux. Il la voit sourire, puis embrasser la paroi, y écraser ses lèvres, les yeux clos, les mains bien à plat sur la paroi de verre. Puis elle se retourne, tandis qu'il se fige, le cœur incroyablement dilaté. Que s'est-il passé ? Le funiculaire s'éloigne et s'attaque à la pente, poussif, opiniâtre. Et Simon décide de faire exactement la même chose, en plus beau. Embraye sa bécane et commence l'ascension de la côte. La grande boucle du virage étire la distance, mais il pédale à toute allure. Couché en position de vitesse comme un cycliste dans la course, son sac de classe formant une bosse dans son dos. Alors le ciel devient sombre, les ombres au sol disparaissent, la pluie encore, une pluie maritime, lourde. En quelques minutes, le bitume ruisselle et la chaussée glisse, tandis que Simon change de plateau et se dresse en danseuse, aveuglé par les perles liquides en suspension le long de son arcade sourcilière. Mais si heureux qu'il pourrait aussi en cet instant renverser la tête vers le ciel, ouvrir la bouche et boire tout ce qui s'écoule de là-haut. Les muscles de ses cuisses et de ses mollets se sont tendus dans l'effort, ses avant-bras douloureux. Il crache, souffle, mais trouve en lui l'élan nécessaire pour décrire la bonne courbe dans le dernier virage. Placé dans un angle si juste qu'il gagne en vitesse, atteint le plat de la côte en roue libre, fonce sur la station du funiculaire alors que les rames de la machine freinent dans un crissement strident, dérape devant les portes, trempé, dégoulinant. Descend de son vélo et ploie en avant, main sur ses genoux, tête face au sol, bave aux lèvres, mèche de cheveux collée au pourtour du visage à la manière d'un jeune maréchal d'Empire. Il gare son vélo contre un banc et reprend son souffle, ouvre son blouson, les premiers boutons de sa chemise, le rythme de son cœur ralentit graduellement sous le tatouage qui apparaît. C'est un cœur de nageur en haute mer, un cœur de sportif dont la fréquence cardiaque peut descendre au repos sous les 40 battements par minute, bradycardie des extraterrestres. Mais à peine Juliette a-t-elle passé le tourniquet de la sortie que tout accélère de nouveau. Une vague, un emballement, mains dans les poches et tête rentrée dans les épaules. Il se dirige droit sur elle, qui sourit, ôte son ciré et le lève à bout de bras en l'air. C'est un haut vent, un parapluie, un ciel de lit. Et une fois qu'ils se font face, elle se hausse sur la pointe des pieds pour le recouvrir. Et elle, avec lui, les deux contenus dans l'odeur douceâtre de plastique, et leur visage rougeois sous l'étoffe cirée, leurs cils sont bleu marine, leurs lèvres violettes, leur bouche profonde et leur langue d'une infinie curiosité. Ils sont sous la bâche, comme sous un abri où tout résonne. Le grain qui force au dehors, formant le tableau sonore où se greffe, souffle et chuintement de salive. Ils sont sous la bâche, comme sous la surface du monde, immergés dans un espace humide et moite, où coissent les crapauds, où rampent les escargots, où gonfle un humus de magnolia, de feuilles brunies, de boules de tilleul et d'aiguilles de pin, où stagnent les billes de chewing-gum et les mégots de cigarettes imbibés de flotte. Ils y sont comme sous un vitrail qui recrée le jour terrestre et le baiser dur. Refermons cette parenthèse lumineuse pour retrouver la froideur du cadre hospitalier. Nous sommes désormais à la coordination des prélèvements d'organes où œuvre l'infirmier Thomas Rémige. Ce singulier personnage, également chanteur et diplômé en philosophie, doit à son tour jouer une délicate partition, tenter de convaincre les parents de Simon de faire don des organes de leur fils. Ces derniers, semblables à deux zombies, assommés par la douleur, encaissent cette requête comme un nouveau coup. Sean, quant à lui, réagit violemment aux questions de l'infirmière. Thomas commence lentement, rappelant avec méthode le contexte de la situation. Je crois que vous avez compris que le sermon de Simon était en voie de destruction. Néanmoins, ses organes continuent à fonctionner. C'est une situation exceptionnelle. Sean et Marianne clignent des yeux, manière d'acquiescement. Thomas, encouragé, poursuit. J'ai conscience de la douleur qui est la vôtre, mais je dois aborder avec vous un sujet délicat. Son visage est nimbé d'une lumière transparente et sa voix monte imperceptiblement d'un cran, absolument limpide quand il déclare « Nous sommes dans un contexte où il serait possible d'envisager que Simon fasse don de ses organes. » D'emblée, Thomas a posé sa voix sur la bonne fréquence et la pièce semble résonner comme un micro géant, un toucher de haute précision. Sean relève la tête, Marianne sursaute. Tous deux chavirent leur regard dans celui de Thomas. Ils commencent à entrevoir avec terreur ce qu'ils fabriquent ici, face à ce beau jeune homme au profil de médaille, ce beau jeune homme qui enchaîne avec calme. « Je voudrais savoir si votre fils avait eu l'occasion de s'exprimer sur ce sujet, s'il lui est arrivé d'en parler avec vous. » Les murs valsent. Le sol roule. Marianne et Sean sont assommés. Bouche bée, regard flottant au ras de la table basse, mains qui se tordent et ce silence qui s'écoule, épais, noir, vertigineux, mélange d'affolement à la conclusion. Thomas continue. Votre fils est-il inscrit au registre national des refus de dons d'organes? Ou savez-vous s'il avait exprimé une opposition à cette idée? S'il était contre? Phrase compliquée. Leur visage se déforme. Marianne secoue la tête. Je ne sais pas, je ne crois pas. Elle balbutie. Quand Sean s'anime soudain, sa tête mate et carrée se tourne lentement vers Thomas et déclare, creusant l'espace d'une voix sourde, 19 ans. Son torse bascule et fait masse dans ses mots mal articulés, émis sans que les lèvres soient tout à fait desserrées, un feu glacé. Il y a des garçons de 19 ans qui prennent des dispositions au sujet de... Pour... Ça existe ? Cela peut arriver. Thomas répond doucement. C'est parfois le cas. Sean avale une gorgée d'eau, repose le verre d'un geste pesant. Peut-être, mais pas Simon. Thomas reprend. Nous sommes là pour penser à Simon, à la personne qu'il était. La démarche de prélèvement se raccorde toujours à un individu singulier, à la lecture que nous pouvons faire de son existence. Il faut réfléchir ensemble. Par exemple, on peut se demander si Simon était croyant, s'il était généreux. Généreux ? Marianne répète stupéfaite. Oui, généreux. Thomas confirme. Comment il était dans son rapport aux autres ? S'il était curieux, s'il faisait des voyages ? Il faut se poser ces questions. Marianne jette un œil vers Sean. Son regard est défait, peau terreuse et lèvres noires, puis son regard oblique sur la plante verte. Elle ne fait pas le lien entre les questions. Sean s'est redressé d'un bond et maintenant arpente la pièce de long en large. Agité, brusquement déclare « C'est de la merde, cette histoire de générosité. Je ne vois pas en quoi le fait d'être généreux ou de faire des voyages vous autorise à penser qu'il aurait voulu faire don de ses organes. C'est trop facile. Et par ailleurs, si je vous dis qu'il était égoïste, Simon... Alors, ça s'arrête là, l'entretien ? Soudain, il s'approche de Thomas pour lui murmurer à l'oreille. Dis-nous seulement si on peut dire non. Allez, vas-y. Marianne, surprise, se tourne vers lui. Sean ! Mais il ne l'entend pas. S'est redressé, va et vient dans la pièce. Sa vitesse s'emballe. Il finit par s'appuyer dos à la fenêtre, noir et massif dans le contre-jour. « Allez, vas-y, dis-nous la vérité. On peut refuser ou pas ?» Il souffle comme un bœuf. Thomas ne signe pas. Marianne s'est levée pour s'approcher de Sean. Elle tend les bras, mais il se détourne. Trois pas le long du mur, une volte-face. Et il flanque un coup de poing dans le mur. Un coup de poing où s'engage sa force tout entière. Puis il gémit « Putain, c'est pas vrai !» Et dévasté se retourne vers Thomas qui s'est levé à présent, blanc comme un linge, absolument figé, et déclare d'une voix décisive « Le corps de Simon n'est pas un stock d'organes sur lequel il s'agit de faire main basse. » La démarche s'interrompt si la recherche de l'expression de la volonté du défunt que l'on a menée avec les proches aboutit au refus.
Autre grande question, Mélisse de Kerangal, posée par Réparer les vivants, c'est la question du don.
Cette question-là, elle est au cœur du livre et elle est assez fascinante parce que là, il n'y a pas de donneur puisque Simon Limbre est mort et ne peut consentir, donc il ne fait pas le geste de donner. Et finalement, c'est quoi cette transaction? C'est quoi cet échange? On peut se dire, qu'est-ce qui se passe, hein? C'est un don en plus qui n'organise pas de contre-don, qui n'organise pas de domination. Et si vous voulez, pour moi, ce qui est le plus étrange, c'était le moment où j'ai pu réaliser que le don d'organes était peut-être une forme d'échange social qui interroge fondamentalement le commun. Il s'agit à ce moment-là peut-être d'inscrire une distance entre soi-même et le corps de la personne que l'on aime, dont on est le proche, comme on dit, pour le collectiviser. À ce moment-là, on le désacralise, on l'éloigne, on s'en distancie, il y a une forme de déprivatisation qui s'opère, et ce corps est remis au pot commun, à la communauté, pour aller en réparer d'autres.
Concluons ce parcours en découvrant l'heureuse destinataire du cœur de Simon, Claire Méjean. Après un échange privé, Marianne et Sean dépassent leurs réticences et décident de faire de Simon un donneur. Claire Méjean, qui souffre d'une inflammation du myocarde, est une femme d'une cinquantaine d'années, mère de trois grands-enfants. Depuis un an, elle a troqué sa maison de comte, proche de la forêt de Fontainebleau, pour un sinistre deux pièces voisin de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Elle y vit en sursis, dans l'attente d'une transplantation. Pourtant, lorsque son médecin lui annonce enfin un donneur compatible, l'espoir soudain de survie se teinte d'angoisse à l'idée d'accueillir en elle un organe étranger. L'auteur restitue avec une justesse rare ce moment crucial où toutes les sensations s'intensifient, la peur comme la soif de vivre. Et ce personnage qui s'apprête à changer de cœur semble alors se relier d'une manière inédite et quasi chamanique au monde qui l'entoure. Sur le chemin qui l'amène à l'hôpital, elle invoque toute une faune animale pour accompagner sa renaissance à venir. Allô, Madame Méjean, on a un cœur compatible. Une équipe part immédiatement prélever. Venez maintenant. La transplantation aura lieu cette nuit. Vous entrerez au bloc autour de minuit. Elle raccroche. Elle est essoufflée. Se tourne vers l'unique fenêtre de la pièce et se lève pour aller l'ouvrir, en s'appuyant des deux mains sur la table du bureau pour se dresser. Les trois pas qui suivent sont pénibles, et plus encore l'effort auquel elle doit consentir pour tourner la crémone. L'hiver se masse dans le cadre, garrotte les odeurs, et plaque un film glacé sur son visage. Elle tressaille, porte lentement les yeux de l'autre côté du boulevard Vincent Auriol, juste en face, touchant les fenêtres du bâtiment qui loge le service de cardiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où trois jours auparavant, elle s'était rendue pour des examens qui avaient montré que l'état de son cœur s'était fortement détérioré, justifiant que le cardiologue fasse une demande à l'agence de la biomédecine pour l'inscrire en priorité sur la liste des receveurs. Elle pense à ce qu'elle est en train de vivre, là, en cette seconde. Elle se dit « Je suis sauvée ?» je vais vivre. Elle se dit, quelqu'un quelque part est mort brutalement. Elle se dit, c'est maintenant, c'est cette nuit. Elle éprouve cet événement de l'annonce. Elle voudrait que jamais cet éclat de présent ne s'éloigne. Elle inhale longuement l'hiver, yeux fermés. La planète bleutée dérive dans un pli du cosmos, suspendue en silence dans une matière gazeuse. La forêt est étoilée de trouées rectilignes, les fourmis rouges remuent au pied des arbres en une gelée gluante. Le jardin se dilate, elle se figure son cœur, morceau de chair rouge sombre, suintante, fibreuse, tuyautée de toutes parts. Cet organe gagné par la nécrose, cet organe qui défaille. Elle referme la fenêtre. Il faut qu'elle se prépare. Un t-shirt, quelques culottes, deux chemises de nuit, une paire de chaussons, des produits de beauté, l'ordinateur portable, le téléphone, les différents chargeurs, son dossier médical, les imprimés administratifs, les derniers examens et ses grandes enveloppes rigides qui contiennent les radios, les scanners, les IRM. Elle apprécie d'être seule à l'heure de faire son sac, de descendre l'étage à pas précautionneux, de prendre son temps dehors. Elle traverse le boulevard en diagonale, cherchant à capter le regard des conducteurs qui freinent devant elle. Elle aimerait croiser un animal, un tigre dans l'idéal, ou une chouette effraie, mais un chien errant ferait très bien l'affaire, ou des abeilles simplement merveilleuses. Elle est terrifiée comme jamais, elle est anesthésiée par la terreur. Il faudrait quand même appeler, se dit-elle en entrant sur le territoire de l'hôpital. Elle affiche le numéro de ses fils, leur envoie un texto. C'est maintenant, c'est cette nuit. Appelle sa mère qui déjà doit dormir. Elle se retourne encore une fois, appuie son regard sur la fenêtre de son appartement et subitement toutes les heures qu'elle a passées à attendre derrière cette paroi de verre se condensent en un éclat de temps et convergent dans son occiput à l'instant même où elle passe la grille de l'hôpital. Puis c'est un virage à gauche. Elle entre dans l'institut de cardiologie, un hall, deux ascenseurs. Elle se défend de penser à choisir celui qui lui portera chance. Le troisième étage et ce couloir éclairé comme une station spatiale. Le poste de travail cloisonné de verre. Et son médecin, debout, la blouse propre et boutonnée. Je vous attendais.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec Pascal Bénard à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Fanny Leroy, Perrine Malinge et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.